Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et le Journal de Montréal. Au programme, dans l'univers de Tristan Demers. Voici ce qu'on peut faire pour affronter le risque accru de feux de forêt et pour que les élèves aussi soient intelligents, pas juste leur téléphone. Bonne écoute.
Dans l'univers de Tristan Demers, un texte de Véronique Larocque, paru le 31 mai 2023 dans La Presse. Le bédéiste Tristan Demers, célèbre pour ses 40 ans de carrière. Celui qui a créé le personnage de Gargouille alors qu'il n'avait que 10 ans, a depuis publié près de 80 livres et vendu plus de 1 million d'exemplaires dans la francophonie. Même s'il a 1001 projets, l'une des activités les plus importantes, à ses yeux, demeure d'aller à la rencontre des jeunes lecteurs. La presse l'a accompagné dans une classe de 4e année. La cloche vient de sonner à l'école Fernand Seguin, à Montréal. Alors que les couloirs grouillent d'élèves qui se dirigent en classe, Tristan Demers accueille la presse dans la salle des enseignants. Le bédéiste revient tout juste de cette île où il participait au Salon du livre. Son passage sur la côte nord lui aura laissé un souvenir, une tendinite au poignet, gracieuseté des quelques 500 signatures du week-end. Malgré son attel, l'auteur et illustrateur chouchou des jeunes passera la matinée à dessiner avec deux groupes de 4e année. Il faut dire que Tristan Demers n'a pas l'habitude de s'arrêter. En plus de créer des bandes dessinées jeunesse, il écrit des livres documentaires pour adultes, comme Québec 90, qui paraîtra cette année, et des albums pour les enfants, dont son plus récent, La chasse aux biscuits. Celui qui a animé différentes émissions de bricolage conçoit également des cahiers de dessin. Chaque année, il participe à une vingtaine de salons du livre au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Il y a quelques semaines, il était de passage en France, en Belgique et en Suisse. Visiblement, Tristan Demers ne tient pas en place. L'artiste verbomoteur, au débit rapide, aime quand il y a de l'action. C'est peut-être pour cette raison qu'il réussit à capter l'attention des jeunes, une génération habituée à l'instantanéité, analyse-t-il. Ce matin, dès son entrée dans la classe, les regards d'une vingtaine d'enfants se tournent vers lui et ne le quitteront plus pour la prochaine heure et demie. Les élèves, qui ont de bonnes manières, ont salué les représentants de la presse. Soyez sans crainte. Sur les grandes feuilles blanches accrochées au tableau, les dessins apparaissent à un rythme soutenu, et ce, malgré la tendinite au poignet de l'illustrateur. Deux bébés, une licorne et, bien entendu, Gargouille se succèdent. Je prends un petit 5-10 minutes pour te présenter mon univers. Après ça, on va parler du tien, lance le bédéiste. Un brin de folie. Lorsqu'il a commencé à donner des ateliers dans les écoles, il y a 35 ans, le jeune Tristan Demers offrait des conseils pour bien dessiner. À 50 ans, le message qu'il souhaite transmettre a changé. Il veut donner aux jeunes l'envie d'imaginer. L'imagination, c'est le pouvoir que tu as de transformer des choses qui t'entourent. Aujourd'hui, on va mettre nos lunettes spéciales qui nous permettent de voir la vie autrement, propose Tristan Demers. Si je dessine un poisson, je le dessine dans l'eau ou dans l'espace? Je fais un lapin. Il mange des carottes ou un gâteau au fromage? Demande-t-il aux élèves. Ceux-ci, fascinés, comprennent rapidement que lorsqu'on dessine, on peut laisser aller sa folie. À la recherche d'un animal au long cou à illustrer, Tristan Demers sollicite l'aide des enfants. « Une girafe !» répondent-ils en chœur. « Je ne ferai pas de girafe. Tu vois bien que tout le monde a dit la même chose. L'originalité, c'est l'idée la plus rare. Il y a d'autres animaux au long cou dont le nom ne nous vient pas en tête en moins d'une seconde, explique-t-il. Autruche, lama, émeu, dromadaire, flamant rose. Les choix sont en effet multiples, réalisent les jeunes. Il faut que tu acceptes que ton idée va être meilleure et qui va se démarquer, va arriver après celle de tout le monde. Depuis une quinzaine d'années, le BDiste constate que les jeunes ne s'accordent plus l'espace nécessaire pour laisser aller leur imagination. Je pense que, fondamentalement, l'enfant a plein d'idées. Mais avant, il s'ennuyait, explique-t-il en entrevue. Il jouait dans le parc, dans la ruelle. Il attrapait une branche. Ça devenait une épée ou un télescope. Là, non seulement il passe beaucoup de temps devant l'écran, mais son père lui achète une épée qui allume au Dollarama. Il ne voit plus que la branche peut en devenir une. Selon lui, le jugement des autres occupe aussi une place trop importante dans l'esprit de cette génération. Les enfants sont créatifs, mais ils sont dans un contexte social qui ne leur permet plus de l'exprimer. Donc, ils finissent par ne plus savoir comment inventer, affirme Tristan Demers. Loin de lui l'intention de jeter la pierre à quiconque, cependant. C'est vraiment un problème de société, et je m'inclus là-dedans, affirme l'auteur qui a réfléchi au sujet dans l'essai « L'imaginaire en déroute ». Il est toutefois convaincu que les ateliers offerts par des artistes dans les écoles contribue à éveiller la créativité des enfants. Qu'est-ce qu'il aimerait que les jeunes retiennent de sa présence aujourd'hui? La liberté de création et le pouvoir de l'art, répond-il. En étant plus libre, tu es moins dans la retenue. Tu te mets moins de balises. Tu découvres où ça t'amène. Le pouvoir de l'art, ça ne se rentre pas dans la gorge de façon théorique. Ça se constate en le vivant. Mais pour le vivre, il faut se laisser aller. À vos crayons! Après avoir inventé de drôles de personnages à partir de chiffres et de lettres, Tristan Demers a invité les élèves à faire de même. La seule limite? Interdiction formelle d'effacer. Puisque de belles idées peuvent naître d'un trait qu'on n'avait pas prévu. Voici où leur créativité les a menés. Qui est Tristan Demers? En 1983, à l'âge de 10 ans, Tristan Demers crée le personnage de Gargouille. Vedette d'un magazine artisanal, il gagne en popularité et apparaît dans des livres, des revues, des journaux et sur de nombreux produits dérivés. Le BDiste signe une douzaine de séries destinées à la jeunesse, dont Club Licorne et Les Mini-Maniacs. Passionné d'histoire, il écrit des livres documentaires destinés aux adultes, comme Tintin et le Québec. Il a animé différentes émissions créatives, dont Bricoblague, offerte sur Tout.tv et BAM, sur Youpa. C'était « Dans l'univers de Tristan Demers », un texte de Véronique Larocque, paru le 31 mai 2023 dans La Presse.
Voici ce qu'on peut faire pour affronter le risque accru de feux de forêt. Un texte de Dominique Scali, paru le 11 juin 2023 dans le Journal de Montréal. Des maisons mieux protégées, des villes et des forêts mieux aménagées et des technologies encore plus poussées. Il existe une panoplie d'actions possibles pour s'adapter aux risques de feux de forêt en ces temps de crise climatique, comme de développer un produit ignifuge pour bloquer les flammes près des infrastructures ou de construire des maisons plus résilientes. Plus de 13 000 Québécois évacués. Plus de 500 000 hectares partis en fumée. On a vu cette semaine l'importance de s'adapter aux incendies forestiers qui risquent d'être plus présents qu'avant, car non, on ne pourra pas tous les éteindre, répètent les scientifiques. Le journal a consulté plusieurs experts pour déterminer ce qu'on doit améliorer pour prévenir le risque et réduire les dégâts. 1. Protéger sa maison. Fini le toit en bardeaux de cèdre. Si vous songez à construire une maison ou un chalet près d'une zone boisée, il existe une série de conseils à suivre qui ne sont malheureusement pas assez connus du public, explique Glenn McGillivray de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques. Les gens pensent qu'un feu de forêt, c'est un mur de flammes qui avance, mais ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, un incendie peut projeter des braises sur plusieurs kilomètres qui vont ensuite allumer les produits inflammables là où ils atterrissent. Par exemple, le métal, le bitume et les tuiles en argile sont à privilégier, tandis que les bardeaux de fente, le bardage en bois ou en vinyle sont à éviter, selon le guide d'Intellifeu. Bye-bye les bûches adossées à la maison. Il est aussi préférable d'établir une zone tampon autour de sa maison. Les matières combustibles, comme les arbres ou les matériaux de construction qui traînent, devraient être placées à plus de 10 mètres du bâtiment. On peut dire adieu aux cabanons remplis de bûches de foyer adossées directement à la maison. Le guide de la Sopfeu propose par exemple de tondre sa pelouse pour qu'elle ne dépasse pas 10 cm. 2. Prévenir le déclenchement. Moins de sapins, plus de feuillus. Vous avez peut-être déjà vu une vidéo d'un sapin de Noël qui prend feu en quelques secondes. C'est une règle assez simple. L'épinette et le sapin, ça brûle bien. Le peuplier et le bouleau, ça brûle moins bien, résume Jonathan Boucher, chercheur au Service canadien des forêts. Or, l'industrie forestière repose beaucoup sur les espèces résineuses en forêt boréale. À Lebel-sur-Quévillon, par exemple, on aurait pu planter des peupliers faux-trembles autour de l'usine au lieu de conifères, illustre Yves Bergeron, professeur en écologie forestière à l'UQAT et à l'UQAM. Par ailleurs, la tendance à créer des plantations avec une seule espèce favorise les incendies, contrairement aux forêts diversifiées, ajoute Liliana Perez, professeure au département de géographie de l'Université de Montréal. Des cartes comme pour les zones inondables. Au Canada, il n'y a pas vraiment de modèle permettant d'évaluer quelles sont les zones les plus vulnérables au feu, contrairement à ce qui existe pour les zones inondables. C'est quelque chose qui est en train d'être bâti, explique Jonathan Boucher. Cette évaluation pourra reposer, entre autres, sur l'historique des feux de forêt et la configuration de la ville de façon à créer des cartes de risque. L'avenir repose sur un meilleur aménagement dans les zones périurbaines. C'est absolument clair, résume Olivier Lundquist de la Sopfeu. Respecter les interdictions de feu. En général, 80% des incendies dans une saison, c'est dû à l'activité humaine, indique Karine Pelletier, agente à la prévention pour la Sopfeu. Parmi les brasiers qui font rage en ce moment, on compte un feu de camp mal éteint. Il est donc essentiel de bien lire les affiches et de respecter les interdictions. On ne fait pas ça pour écœurer le monde, mais parce que le danger est réel, insiste Mme Pelletier. Chaque printemps, la Sopfeu se heurte aussi à la résistance de propriétaires qui brûlent des branches sur leur terrain en se disant qu'ils n'ont jamais eu de problème par le passé. Or, des dizaines de feux sont ainsi déclenchés chaque année, souligne-t-elle. 3. Combattre les feux. Mieux suivre les feux à partir de l'espace. Les satellites sont nécessaires pour suivre l'évolution des feux, surtout dans un territoire immense comme celui du Canada. Le Service canadien des forêts recueille déjà des données satellitaires utilisant de l'imagerie infrarouge qui décèle la chaleur. Or, le système actuel ne récolte pas de données en fin d'après-midi, période la plus critique dans le développement des feux, explique le chercheur Jonathan Boucher. Des experts canadiens développent donc la mission Garde-feu, un satellite conçu spécifiquement pour le suivi des feux de forêt. Par exemple, en couplant ces données avec celles d'autres satellites, il sera possible de comparer les positions d'un incendie dans le temps afin d'en calculer la vitesse de propagation. Ces données peuvent ensuite servir à décider où envoyer les effectifs de combat et s'il faut évacuer une population. La mission Garde-feu devrait entrer en fonction en 2029. Des images satellites montrent le feu de forêt qui fait rage en Abitibi-Témiscamingue depuis quelques jours en date du 2 juin 2023. Plus d'effectifs, plus d'avions citernes. En date de mercredi, le 7 juin dernier, la force de frappe du Québec permettait de combattre une quarantaine de feux alors que 150 faisaient rage, estimait alors François Legault. Et ce, même si la SOPFEU a augmenté ses effectifs de 10% depuis 2018. Lors d'une saison normale, le manque de ressources n'est pas aussi criant, notamment parce que les provinces pouvaient s'entraider, assure Karine Pelletier de la SOPFEU. Mais cette année, les feux au Québec surviennent alors que l'ouest du pays est occupé à combattre ses propres feux. Depuis quelques années, les saisons d'incendie tendent aussi à s'étirer. Poursuivre la recherche. Les scientifiques sont loin d'avoir élucidé tous les mystères des feux de forêt et surtout, comment les combattre. Par exemple, des chercheurs ont développé un type de détecteur de fumée environ 1000 fois plus sensible que ceux de nos maisons. D'autres tentent de créer un produit ignifuge qui pourrait bloquer les flammes près des infrastructures menacées, illustre Olivier Lundwick. D'autres veulent tester l'efficacité d'une stratégie de prévention qui consiste à faire des coupes de bois partielles pour éviter la propagation, ajoute Jonathan Boucher. Or, on sait que d'ouvrir le peuplement forestier permet au soleil d'assécher plus rapidement le terrain et donne plus d'emprise au vent. Voilà un dilemme qui doit être étudié. Il faut arrêter de penser que la recherche, c'est une dépense. Un dollar investi en adaptation, c'est des dizaines de milliers de dollars économisés plus tard en intervention, rappelle Philippe Gachon, professeur au département de géographie de l'UQAM. C'était « Voici ce qu'on peut faire pour affronter le risque accru de feux de forêt », un texte de Dominique Scali, paru le 11 juin 2023 dans le Journal de Montréal.
Pour que les élèves aussi soient intelligents, pas juste leur téléphone. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 3 juin 2023 dans La Presse. Dans ma grande innocence, j'étais certain que les cellulaires des élèves étaient interdits en classe, comme l'ont été nos Game Boy, nos Walkman, nos Polaroid, nos Boombox, nos magnétoscopes, nos fax, nos transistors, nos enregistreuses, nos systèmes de karaoké, nos répondeurs, nos caméscopes, nos calculatrices, nos lecteurs VHS, nos Commodore 64, nos PlayStation, nos magazines, nos encyclopédies Grolier, nos lampes de poche, nos réveils matins, nos walkie-talkies, nos collections de 33 tours, nos cassettes, nos rubans mesurés, nos boussoles, nos télés. Bref, tous les objets qui nous permettaient, dans le temps, de faire ce qu'aujourd'hui font, à eux seuls, nos cellulaires. Tous ces objets qui sont des sources de distraction quand on est censé faire autre chose. Sur notre pupitre, on avait droit au manuel scolaire, au cahier Canada et à notre coffre à crayons. Aucun élève ne s'est jamais plaint de ne pouvoir envoyer de fax à ses amis pendant un cours, ni de ne pouvoir prendre une photo du tableau noir pour ne pas avoir à prendre de notes. Un cours étant essentiellement la transmission du savoir, le rôle de l'élève est d'abord d'écouter ce que dit le prof et, dans la mesure du possible, de le comprendre. Pas de consulter son fil Instagram ni d'envoyer des textos à ses BFF qui ont la chance d'être en congé. Voilà pourquoi j'ai dû relire, à deux reprises, une manchette parue cette semaine dans les journaux, titrée ainsi. Une motion visant à encadrer l'utilisation du cellulaire en classe est rejetée. Je croyais que c'était une motion visant à permettre l'utilisation du cellulaire en classe est rejetée. Tellement c'était évident pour moi qu'un cellulaire n'a pas sa place dans une salle de classe. À moins que le prochain iPhone ait une application permettant de purifier l'air. À mon grand étonnement, le gouvernement du Québec a rejeté la motion déposée par le PQ. Pourquoi? On ne sait pas trop. Pour ne pas stresser les jeunes, probablement, qui sont très attachés à leur mobile? Qui en ont besoin pour fonctionner? Pour qui c'est vital? Pour qui c'est un troisième lien essentiel avec le lien parental et le lien affectif? Je veux bien, mais c'est un cellulaire, pas un pacemaker. Le laisser dans leur casier le temps d'un cours ne mettra pas leur vie en danger. Les cégepiens des années 1970 étaient très dépendants du pot. Mais il ne pouvait pas fumer un joint durant les cours, à part ceux de philo. Se distancer de leur téléphone 50 minutes d'affilée ne peut que leur faire du bien. Vivre le monde réel à 100% avec les gens présents autour de soi est une expérience précieuse. Le mois dernier, 92% des 7000 profs sondés par la Fédération des syndicats de l'enseignement, ont dit appuyer l'interdiction du cellulaire en classe, sauf pour certaines activités pédagogiques. 92 % Allô? Toute réforme scolaire devrait prioriser la vie de ceux qui vouent leur vie à l'enseignement. Si Yannick Nézet-Séguin n'endure pas les téléphones durant ses concerts, pourquoi, diantre, un enseignant doit-il les endurer? Un cours de français, de maths ou de chimie, c'est aussi important que la flûte enchantée de Mozart. La concentration d'un maestro n'est pas plus sacrée que celle d'un enseignant. Dans les deux cas, ils sont là pour nous ouvrir l'esprit. Pas le Samsung Galaxy! Si la société s'entend pour interdire le cellulaire au volant de son char, elle devrait s'entendre pour interdire le cellulaire au volant de son avenir. Si une erreur d'inattention peut causer un dérapage sur la route, elle peut causer un décrochage sur le chemin de l'apprentissage. Comprenons-nous bien, on ne veut pas interdire les cellulaires à l'école. On veut simplement qu'il soit hors d'usage durant les cours. C'est le gros bon sens. Entre les cours, les jeunes auront tout le temps de mettre à jour leurs réseaux sociaux, même qu'ils en auront plus à raconter. En classe, si on ressent le besoin de se relier à Google ou à ChatGPT, ce sera sous la supervision du maître. Si on veut que les élèves soient intelligents, pas juste leur téléphone, il faut leur apprendre à être autonomes, à être fonctionnels sans Wi-Fi. Ainsi, ils pourront encore mieux se servir de leur cellulaire plutôt que ce soit leur cellulaire qui se serve d'eux. Courage, les jeunes! Les vacances s'en viennent! C'était pour que les élèves aussi soient intelligents, pas juste leur téléphone. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 3 juin 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Drion et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.